Chapitre 37. La procédure était lancée. Atticus et Hack avaient passé leur mardi, après l'interrogatoire de Ximena Torrebiarte, à monter le dossier avant de s'enfermer dans le bureau du lieutenant Petrozza, qui leur avait tout fait répéter deux fois pour parvenir à y croire. C'était énorme. Trop pour lui. Et ils convoquèrent le capitaine d'Hollywood Station, Terence Schaeffer, pour le mettre au parfum à son tour. Schaeffer en personne les accompagna chez le district attorney, où ils ne ressortirent pas avant le soir. La machine demandait du temps pour s'ébranler, mais avec ce qu'ils injectaient dans le moteur, une fois partie, elle serait inarrêtable. Cette nuit-là, Atticus eut toutes les peines du monde à s'endormir, et il regretta de ne pas être accompagné. Ce n'était pas le moment en soi, et pourtant, une présence, juste un souffle à ses côtés, l'aurait bercé, rassuré. Il pensa à Ximena qui passait sa première nuit en cellule. Était-elle rassurée ou prenait-elle conscience de sa situation? Mel et les autres fantômes de Skid Row écoutaient certainement la rumeur de la misère. Hack devait être comme lui, à fixer le plafond, à songer à sa femme et à ses enfants, et à ce qu'ils allaient subir lorsque les médias se déchaîneraient sur les deux flics qui étaient à l'origine de la révélation. Et ces hommes qu'Atticus baisait en échange d'argent? Où étaient-ils en cet instant? Que faisaient-ils? À quoi ressemblait leur vie? Le matin, Atticus se prépara tôt et attendit que son portable sonne. Il avait été plutôt clair sur ses intentions pour la suite. Personne ne l'éjecterait. Lui et son partenaire avaient démarré cette enquête, ils la boucleraient, même si le maire en personne ordonnait le contraire. Sinon, il les lâchait tous. Il se démerderait sans lui, sans ses contacts, et surtout, il irait déverser tout son fiel auprès d'un des journalistes du Times dont le numéro traînait dans son répertoire. Atticus guettait l'appel du chef de la police. Celui-ci allait lui annoncer que sa carrière était terminée s'il n'obéissait pas, et qu'il mangerait de la merde en boîte durant le restant de ses jours pour avoir osé défier la plus haute autorité du LAPD. Mais le téléphone ne sonna pas. Personne ne se manifesta. Une matinée anormalement calme. Atticus s'était imaginé que ce serait réunion de crise sur réunion de crise, qu'il serait débordé de coups de fil, d'équipes à coordonner, de rapports à relire, mais rien. Il se rassura en se disant que c'était encore le tout début, que le district attorney convoquait ses propres troupes, fomentait le plan de bataille. Après tout, il était impensable de donner l'assaut contre l'un des fleurons industriels du pays sans avoir décortiqué avec une armée de juristes toutes les stratégies possibles. En face, l'heure venue, il riposterait par wagon entier. Atticus avait accompli sa part et il ne pouvait plus que suivre des instructions qui ne venaient pas. « Laisse-leur le temps. C'est normal. » Il était nerveux. À midi, la sonnette le fit sursauter. Hack se tenait sur le seuil, engoncé dans un de ses éternels costumes bon marché. « Toi non plus, tu ne tiens plus en place. » Hack ne répondit pas et s'invita à l'intérieur. « Je ne cesse de me répéter qu'il faut être patient à présent, » confia Atticus. Mais ce n'est pas ma qualité première. Hack ouvrit la bière qu'il venait de se faire offrir. Tu n'as eu personne ? Demanda-t-il. Silence radio. Le calme avant la tempête. Hack se posta devant la baie et admira la vue sur la colline opposée de l'autre côté du réservoir en contrebas. Alicia adorerait, dit-il, pensif. Atticus détecta le malaise. Ça va ? Hack inspira profondément. Je ne sais pas. Dis-moi, c'est cette pression qui te pèse? On va y arriver, tu sais. Faudra serrer les dents au début, et puis tu vas voir, tu vas adorer être un héros. Imagine le regard de tes filles. Hack hocha la tête. Je laisse tomber, partenaire. Atticus se dressa devant lui. Non, tu peux pas. Pas maintenant. Je suis désolé. Rappelle-toi ce qu'on s'est dit hier dans le couloir. Tu... C'est impossible. Et toi aussi, tu dois te retirer. Laisse-les faire. Bon sang, Hack. Je ne te reconnais pas. C'est l'occasion de ta vie. Je n'ai jamais eu de rêve de gloire, moi. Mais tu aimes ton badge et ce qu'il représente. Laisse tomber. Protège-toi. Hors de question. Ils vont te crucifier et te brûler vif si tu continues. » Atticus se raidit. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Que tu commets un suicide professionnel. Arrête tant que... » Atticus fixa son partenaire. « Putain, Hack. Ils font pression sur toi, pas vrai ?»« Crucifié et brûlé vif, ce sont les mots du chef de la police. » « Il t'a appelé ?» Démasqué, le grand blond grimaça, pas fier. « Il est venu me voir. »« Ça va trop loin. » Toi et moi, on est juste deux péquenauds flics, nous ne sommes rien. Et Eneka, c'est la puissance d'une nation et des dizaines de milliers d'emplois derrière. Tu ne mesures pas les conséquences. Les conséquences? Parce qu'ils les mesurent, eux, lorsqu'ils tuent Oscar Oriotto pour le faire taire? Ou quand ils enlèvent des SDF pour leur faire je ne sais quoi? Non, Hack. Je ne capitule pas. Je suis peut-être un grain de sable face à eux, mais ils ne vont pas me dégager de leur belle mécanique aussi simplement. Ellie Hackenberg avait le regard tremblant. Il y avait autre chose. « J'ai reçu des menaces, avoua-t-il. Une photo de mes filles, avec des balles dans l'enveloppe. Quoi ? Il y a une heure. Merde. Ils savent comment m'atteindre. » Après avoir rapidement fait le tour de la question, Atticus posa sa main sur le bras de Hack. « Je comprends. « Je t'avais prévenu. Nous ne sommes pas de taille. » Atticus approuva. « Tu as peut-être raison, » admit-il après un long silence. Ils avaient osé. Hack était hors course. C'était cuit pour lui. Et Atticus ne lui en voulut pas. Lui-même n'avait pas de famille, rien pour le contraindre, aucun moyen de pression. Il assumait tout ce qu'il était, y compris un solitaire, ce qui, pour la première fois, s'avérait un avantage. Que pouvait-il perdre? S'il voulait l'arrêter, ils allaient devoir se donner un peu plus de mal que ça. Un 4x4 noir rutilant, un modèle imposant comme ceux utilisés par les fédéraux, s'arrêta devant chez Atticus peu après le départ de son partenaire. Le flic était en train de ranger son arme de service dans son holster pour se rendre à Hollywood Station, lorsqu'il l'entendit. Les deux hommes qui en sortirent n'eurent pas besoin de sonner. Ils descendaient à leur rencontre. Deux sportifs, veste lestée, crosse apparente, cravate extensible, semelles en caoutchouc antidérapant, prêts au combat. « Mr. Gore, voudriez-vous bien nous suivre, s'il vous plaît ?»« Qui êtes-vous ?» Un des molosses brandit une carte de la sécurité d'Eneka. « Pourquoi ? Qu'est-ce que vous me voulez ?» Vous avez essayé d'entrer en contact avec un de nos cadres. C'est l'occasion de poursuivre la conversation. Atticus balaya l'air de la main et leur tourna le dos. Dites à vos patrons que c'est trop tard. Mr. Kowalski précise que c'est la seule et unique offre qu'il vous fera. Edwin Kowalski. Le fondateur. C'est un de ces sbires qui vous missionne?
C'est Mr. Kowalski en personne.
L'homme s'effaça pour dégager le passage vers la portière arrière ouverte. Atticus allait refuser fermement, mais une petite voix intérieure l'en empêcha. Fini les pyramides d'intermédiaires, les hordes de boucliers humains, les excuses, les protections. Edwin Kowalski en personne, en chair et en os face à lui, prêt à l'écouter, à encaisser, à répondre de ses actes. L'armoire à glace avait raison, c'était une occasion unique. Exceptionnel. Atticus refusait toute naïveté. Il savait que le grand Manitou au sommet du monde n'allait pas lui tendre les poignets pour qu'un vulgaire flic lui passe les menottes. Il allait chercher à l'acheter. Mais si Atticus avait l'habitude de payer, lui-même n'était pas à vendre. C'était son unique fierté et il comptait bien la défendre. Il bouscula le garde du corps au passage et s'enfonça dans le 4x4.